France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Bonjour Jonathan Little.
Bonjour.
Écrivain franco-américain, votre roman Les Bienveillantes, prix Goncourt et prix du roman de l'Académie française en 2006, est l'un des plus grands succès francophones de ces 20 dernières années. On en reparlera tout à l'heure. Il vient d'être adapté, inspiré, je ne sais pas comment dire, un opéra, mais l'opéra, c'est la raison qui vous amène ici ce matin sur France Musique et nous en sommes ravis. L'Opéra de Paris vous a sollicité pour l'un de ses films de la troisième scène. Ce sont des courts-métrages en lien avec parfois le monde lyrique, parfois le monde de la danse. À voir gratuitement d'ailleurs, là maintenant, après l'émission, sur le site de l'Opéra de Paris. Ce n'est pas la première fois que vous êtes metteur en scène d'un film. Vous êtes documentariste. Il y a notamment ce documentaire Long Elements consacré aux enfants soldats d'Ouganda, sorti il y a 3 ans. Ce désir de filmer, de réaliser de façon générale, comment il est né chez vous en même temps que l'écriture?
C'est difficile à dire, ça fait très longtemps que j'ai envie de faire des films. Évidemment, c'est plus compliqué que d'écrire des livres, puisqu'il y a une dimension économique qui est autre. Donc, ça s'est mis en place quand ça s'est mis en place, parce qu'il y avait des opportunités. Et cette opportunité pour la troisième scène a été une aussi. Cinéma est souvent question d'opportunité. Donc voilà, ça se développe comme ça, petit à petit.
Là, c'est de la fiction. C'est la première fois que vous touchez à la fiction.
Ouais, au cinéma, oui.
On peut parler de fiction.
C'est une forme de fiction,
oui. En tout cas, ce n'est pas un documentaire.
Non, ça c'est sûr.
Alors, Le Couronnement, c'est le titre de ce film, de la troisième scène numérique de l'Opéra de Paris, puisque vous allez nous le raconter, il puise son inspiration visuelle et sonore dans Le Couronnement de Popée de Monteverdi. Monteverdi, un extrait du Couronnement de Popée, extrait de l'acte 3 avec Sylvia McNair, Dana Hanchard, l'orchestre baroque anglais dirigé par John Elliott Gardiner. Le Couronnement, tout court, c'est le titre de ce film, votre film pour la troisième scène de l'Opéra de Paris, Jonathan Little, que tout le monde peut voir gratuitement, je le rappelle, sur le site de l'Opéra de Paris, même si c'est plutôt réservé aux plus grands, on va y revenir. Comment ça s'est fait, cette rencontre? C'est l'Opéra de Paris qui vous a sollicité?
Non, Non, pas exactement. En fait, je suis ami avec Clément Cogitor, qui a lui aussi fait un film
metteur
pour
en
la troisième scène.
Et depuis, qui a mis en scène, exactement, sur scène Les Indes Galantes.
Mais avant ça, il avait fait une version des Indes Galantes pour la troisième scène. Et j'étais en fait en train d'essayer de développer un autre projet de long métrage qui patinait pour des raisons de financement. Et donc, je ne savais pas trop quoi faire. Et c'est Clément qui m'a parlé de la troisième scène et qui m'a suggéré peut-être de leur proposer un projet. Et donc, en fait, c'est moi qui suis allé les voir avec cette idée, qui ensuite a été acceptée par Philippe Martin, qui est le producteur, et qu'on a pu mettre les choses en place pour que ça se fasse.
Donc, c'est vous qui êtes venu avec le couronnement de Poppée, tout de suite ?
Oui.
Pourquoi ?
Parce que j'adore cet opéra, tout simplement.
Là, on écoutait cet extrait, vous connaissez par cœur le couronnement de Poppée.
Oui, mais en fait, j'avais déjà travaillé sur le couronnement de Poppée en 2012, lors de la production à Madrid de Krzysztof Warlikowski, qu'il avait mis en scène à Madrid. À l'époque, c'était Gérard Mortier qui était le directeur à Madrid. Et Krzysztof m'a demandé d'écrire une scène théâtrale pour inaugurer l'opéra, qui finalement n'a pas été utilisée, mais je l'ai quand même faite. Et donc, j'avais participé aux répétitions, j'avais beaucoup étudié Monteverdi, l'histoire de l'opéra baroque. Enfin, je connaissais déjà bien l'opéra, mais ça m'avait permis de me plonger dedans vraiment à fond. Et donc, l'année dernière, donc 6 ans après, quand j'ai eu cette idée de faire un court-métrage pour l'Opéra de Paris, c'était évident que ça serait celui-là. Il n'y avait pas vraiment d'hésitation à ce niveau-là.
Vous l'adorez pourquoi ? Pour la musique ? Vous l'adorez pour le mal qui est beau ?
Non,
pour son immoralité.
Tout. C'est un opéra démentiel. C'est génial. Mais oui, c'est surtout la musique. La musique est juste extraordinaire.
Vous avez un rapport à l'opéra de longue date, de façon générale ? Vous aimez l'opéra ? Vous parlez de Warlikowski ?
Pas tellement l'opéra, non. J'écoute énormément de musique baroque, mais plus la musique de chambre ou pour instrument seul ou des choses plus petites, mais j'écoute beaucoup d'opéra, mais c'est pas la chose principale que j'écoute.
Vous connaissez bien la musique, ça, il suffit de lire Les Bienveillantes pour s'en rendre compte dans son découpage, notamment Toccata,
oui, Gigue, c'est une suite baroque, justement.
Alors, il y a ce film, c'est très libre à chaque fois qu'il y a des films qui sont faits par des artistes pour la troisième scène de l'Opéra de Paris. Là, comment vous l'avez pris, là, il faut le voir, évidemment, on ne va pas tout raconter, mais par exemple, l'utilisation du son, on entend Monteverdi, mais vous le secouez pas mal. Que vous aimez tant, ce Monteverdi.
Oui, mais c'est bien de le secouer aussi. Les sources et les idées, elles sont nombreuses. C'est que j'ai travaillé par exemple sur Francis Bacon, donc évidemment, en termes de couleurs, d'images, de mise en scène, il y a beaucoup d'idées qui viennent de Bacon. Beaucoup d'idées qui viennent de Godard, que j'adore. Beaucoup, enfin, ça vient d'un peu partout, on va dire. Je voulais faire quelque chose de plutôt expérimental et assez formaliste, parce que un des buts principaux pour moi en faisant ce film, c'était de tester des idées visuelles, en fait, visuelles et sonores. Voir si ça marchait, des choses que j'avais pensées, mais que je ne savais pas du tout si ça pouvait marcher en vrai au cinéma. Et donc, ça m'a permis de tester tout un tas de techniques de cinéma, et donc vous parlez du son, notamment un certain rapport entre le son et l'image qui est complètement décalé, puisque l'opéra sert de dialogue pour les personnages, mais les personnages ne chantent pas, ne parlent pas, donc s'il n'y a pas de playback, c'est vraiment des personnages figés et une musique presque comme un commentaire décalé par rapport au personnage.
Bah, voici un petit extrait de ce que ça donne.
Io voglio mio, trarrò la lingua a chi vorrà biasmarmi. Ottavia infrigidita, infeconda, ma sempre più giusto il più potente.
Voilà, évidemment, quand on entend uniquement le son, ça fait un drôle de rapport, parce qu'il y a plusieurs plans, il y a l'éloignement du son dans le film, dans ce film, Jonathan Little, Le Couronnement, à voir donc sur le site de l'Opéra de Paris, à la troisième scène. Ça vous fait tiquer quand vous entendez ça?
Bah, par exemple, cette scène que vous venez de passer, c'est une scène donc de dialogue entre Néron et son maître Sénèque. Sénèque qui le conseille de ne pas épouser Poppée, en gros, qui dans l'opéra original est joué sur scène comme un dialogue AB-AB entre deux personnages, et que moi j'ai traité comme une conversation au téléphone, où le premier plan sonore c'est Néron qui parle au téléphone, et on entend de manière très lointaine Sénèque dans le téléphone, dans le smartphone, qui en plus n'arrête pas de se faire couper la parole dans ce traitement son-là par Néron. Donc Sénèque n'achève même pas ses répliques. Donc c'est vrai qu'il y a un traitement assez libre, on va dire, du matériel de l'opéra. Il y a beaucoup de coupes sèches, par exemple, dans le film, des phrases chantées qui sont interrompues sec au milieu, et ainsi de suite. Mais voilà, c'est le cinéma, c'est pas l'opéra sur scène, donc on est très libre de faire ce genre de choses.
Avec un mélange d'époques, alors c'est aujourd'hui, c'est une belle maison avec une piscine dans le sud de la France, on imagine. Et puis il y a des éléments de l'époque, des éléments antiques qu'on voit, il y a ces deux esclaves. Et puis il y a, on s'appelle, alors c'est totalement immoral ou décadent, en tout cas le couronnement de Poppée, c'est assez... la présence sexuelle est assez importante, c'est pour les adultes, ce film, que vous avez fait, on peut dire. Il y a du bondage.
Bah, disons que j'ai voulu respecter le côté assez libre de cet opéra baroque, qui est dans son écriture même. Monteverdi joue énormément sur le genre, sur le travestisme, sur la partition de pour Néron et aussi pour Othon, qui n'est pas dans mon film, mais qui est un personnage important de l'opéra. Ils sont décrits pour des castrats. C'est pas seulement une question de tessiture, c'est aussi un choix politique, parce que le castrat est un homme dévirilisé, donc c'est identifier Néron à un homme dévirilisé, et ainsi de suite. Évidemment, aujourd'hui, on n'a plus de castrat, donc les réalisateurs qui le mettent en scène à l'opéra sont obligés de faire des choix, et moi j'ai utilisé Vincent de Gardener, qui utilise deux femmes, deux sopranos, pour Poppée et Néron. Et donc, ils chantent, comme à l'époque du castrat, la même tessiture. Ce qui donne un effet encore plus décalé quand on met un acteur masculin, même s'il est assez androgyne, celui que j'ai choisi, Romain Brault, avec cette voix féminine pour chanter Néron.
Le couronnement à voir sur le site de l'Opéra de Paris. Alors évidemment, quand vous citez Clément Cogitor, qui a d'abord fait un film pour la troisième scène et qui vient de triompher dans les Indes galantes de Rameau à Bastille, on se dit, mais vous n'auriez pas quelque part la tentation, l'envie de mettre en scène le couronnement de Poppée sur scène, sur la première scène?
Non.
Voici une gigue de Jean-Sébastien Bach. Thank you. La gigue de la première partita de Jean-Sébastien Bach par Igor Levit au piano, on le disait. Vous en avez marre peut-être qu'on parle des bienveillantes?
Oui.
D'accord. Bon, on va en parler un tout petit peu quand même, Jonathan Little, parce que on parle d'opéra, vous êtes là, et les bienveillantes ont été mises en scène en opéra, récemment à l'Opéra de Flandre, alors que pendant longtemps vous disiez que vous ne vouliez pas que ça devienne un film, une pièce de théâtre. Un opéra, oui, vous avez quand même donné votre accord.
Non, confondons pas tout, j'ai donné mon accord pour beaucoup d'adaptations théâtrales, il y en a eu une dizaine je pense, dans le monde. J'ai pas de problème avec le théâtre, j'ai pas de problème avec les arts de la scène, parce que c'est quelque chose d'éphémère, qui existe au moment où c'est mis en scène et puis ça disparaît. Je n'autorise pas qu'on les filme par contre, parce que je veux pas de traces permanentes, et effectivement je veux pas d'adaptation au cinéma du livre. Mais
y compris par vous.
Oui, encore plus.
Passer à autre chose.
Voilà, mais donc, il y a eu cette possibilité. On m'a approché pour me demander si il pouvait avoir les droits pour faire un opéra. Et j'ai évidemment dit oui tout de suite.
Pourquoi?
Déjà par curiosité, pour voir ce que ça allait donner.
Est-ce que vous aimez l'opéra?
Parce que j'aime l'opéra. Et puis, et je suis très content du résultat. Ils ont très très bien choisi les gens avec qui ils ont travaillé. Je pense que par rapport, enfin, j'ai jamais vu les adaptations théâtrales du livre, mais j'ai eu des échos. Je pense que par rapport à celle-là, le côté opéra leur a permis de se concentrer plus sur les parties du livre qui moins m'intéressent, on va dire. La partie plus dramatique, familiale, sexuelle, névrosée, etc. Parce que ça vient assez naturellement dans un opéra. C'est un librettiste autrichien qui s'appelle Handel Klaus qui a écrit le libretto. Et le résultat était vraiment très très intéressant, très beau.
Donc c'est la première fois que vous voyez une adaptation ce livre que vous ne citez plus, Les Bienveillantes.
Oui, tout à fait.
Avec une musique d'Hector Parra.
Exactement, Hector Parra, et qui on est devenu très amis au cours du processus, qui a fait un travail absolument monstrueux. Il a calculé que le rôle masculin de Max est devenu le rôle le plus long de l'histoire de l'opéra. Il a battu le record de Tristan, 20 ou 30 minutes de plus que Tristan. Ce qui a d'ailleurs causé la démission du ténor qui était retenu depuis 3 ans pour chanter le rôle, parce que quand il a vu la partition, il a dit qu'il ne pouvait pas.
C'est ce qui vous donne pas envie de faire...
Non, mais bon. Et donc, ils ont trouvé au pied levé, deux mois avant, ils ont trouvé un autre ténor qui a fait ça magnifiquement, un jeune gars. Et voilà, ouais, c'était très très intéressant.
Donc intéressant, vous l'avez vu, vous avez collaboré, vous avez en tout cas vous êtes devenu ami avec Hector Parra, mais vous n'avez pas été actif dans la collaboration sur cette...
Non, pas du tout. Non, je m'en suis pas mêlé. On a discuté un peu au début, j'ai mis quelques idées. Une idée que j'avais mise, qu'ils ont retenue, c'était de mélanger les langues. Ça, je trouvais ça vraiment très bien. C'est-à-dire de garder l'allemand pour toute la partie, on va dire, bureaucratique, militaire, formelle, et de passer au français pour la partie plus intime et familiale de Max. Ce qui marche très bien à l'opéra, parce qu'évidemment, quand on change de langue, on change complètement de façon de chanter, ça induit des énormes changements au niveau de la musique. Donc ça, c'est très très intéressant de voir ça mis en scène comme ça.
Vous savez déjà, Jonathan Little, si on pourra voir ça prochainement en France ou...
À ma connaissance, non. Il est prévu à Nuremberg au printemps prochain, et je crois à Madrid l'année suivante, mais pour le moment, il n'y a pas eu de vente en France.
Ben, ce serait bien, l'appel est lancé sur France Musique à 8h47.
Faites-le.
C'est fait. Hector Parra, alors on a pas d'enregistrement, on a juste ce qu'on appelle en mauvais français, en anglais, un teaser. Tout petit extrait, ça dure juste 30 secondes, ce teaser des bienveillantes d'Hector Parra, musique d'Hector Parra, d'après votre roman de 2006, Jonathan Little. Hector Parra, dont vous êtes devenu ami, et d'ailleurs, on le retrouve, et on y revient, dans le couronnement, puisque tout à l'heure, ce qu'on a entendu, il y a Monteverdi, qui est un peu trituré dans tous les sens, et puis il y a aussi une création originale d'Hector Parra dans ce couronnement.
Alors, il n'y avait pas dans l'extrait que vous avez passé, mais effectivement, j'ai utilisé une autre musique de Hector dans le petit film. Hector fait beaucoup de choses très différentes et il a développé une série en catalan qui s'appelle Freck. Hector est catalan. Et l'Auditori de Catalogne a donné cette possibilité. Frec, en catalan, ça veut dire frottement ou frotter. Et c'est une série musicale. Donc ça, c'est, moi, j'ai étudié Frec 3, qui était là, écrite pour un quartet. Et c'est assez difficile à décrire parce que c'est de la musique où il n'y a ni harmonie ni mélodie. C'est une musique de dynamique et d'intensité créée avec des instruments préparés. Et par contre, aucune improvisation. C'est très, très écrit. La pièce est extrêmement bien structurée, mais du coup ça donne des constructions sonores extrêmement intenses. Et Hector m'a très gentiment donné la permission d'utiliser l'enregistrement de Frec 3, que donc à mon tour j'ai frotté contre Monteverdi pour en faire encore quelque chose d'un peu nouveau. Il y a des passages effectivement où il y a une tension très forte entre la musique absolument sublime, baroque de Monteverdi et ces espèces de sons dont je pense beaucoup de gens ne se rendent pas compte que c'est aussi de la musique, c'est pas des effets sonores, c'est vraiment de la musique, mais qui vient parasiter, déformer, voire même avaler la musique de Monteverdi.
Alors, quand on met en scène un film, quel qu'il soit d'ailleurs, on imagine bien le moment où on tourne, le moment où on monte, avec le monteur image, mais niveau du son, on en parle souvent moins. Là, comment vous avez procédé, comment
on Tout fait était écrit en amont, c'était... C'était complètement conçu.
Comme un storyboard, mais
sonore. Le scénario est très technique, parce que comme c'est un film assez formel, c'est pas un scénario classique, il n'y a pas de dialogue. Il y avait une colonne dans le scénario pour l'image et une colonne pour le son. Et donc chaque morceau sonore était déjà décrit, que ce soit la musique Monteverdi, la musique d'Hector, ou les bruitages, effets sonores qui sont rajoutés, étaient conçus en amont. Et ensuite, évidemment, c'est tout un travail pour le faire avec le monteur son et le mixeur.
Musique baroque française sur France Musique, le rappel des oiseaux de Jean-Philippe Rameau.
Ah. Thank you.
Jean-Philippe Rameau, Le rappel des oiseaux au piano, c'était Georges Tziffra en 1981. J'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, je suis content, ça vous fait plaisir,
plaisir.
Jonathan Little, d'écouter Le rappel des oiseaux.
Ah oui, c'est magnifique ça. Très belle interprétation d'ailleurs, c'était très beau ça.
Le rappel des oiseaux, qui est évoqué parmi énormément d'autres musiques dans Les Bienveillantes. Je suis navré d'y revenir par ces mémoires imaginaires d'un officier SS. C'est pour faire le lien entre le couronnement de Poppée, de Monteverdi, ça, et puis d'autres choses qui vous intéressent ou qui vous hantent, ce qu'Anna Arendt appelait la banalité du mal. Est-ce que c'est abusif de faire des liens ou de voir ça dans la beauté de Monteverdi et ces gens absolument abominables?
Je pense que la question est un peu trop générale pour y répondre précisément. Monteverdi, il avait des intentions... D'ailleurs, c'est même pas Monteverdi, c'est Bussonello qui a écrit le libretto, qui avait des intentions politiques extrêmement précises. L'opéra, quand il écrit en 43, si je me trompe pas, 1643 à Venise, s'inscrit à un moment politique où la République vénitienne critique et dénonce la Rome corrompue des papes. Donc c'est aussi une allégorie de la situation politique contemporaine. Néron, la décadence de la Rome antique figure la décadence de la Rome des papes contemporaines de l'époque de l'opéra. Le fait que beaucoup de gens, évidemment, depuis que l'opéra est sorti, commentent le fait que les méchants, entre guillemets, gagnent. Mais je pense que ce qui permettait à Bussonello et Monteverdi de faire ça, c'est le fait que tout le monde à l'époque qui voyait cet opéra connaissait évidemment Tacite, connaissait l'histoire romaine, et savait que ça allait mal finir après, puisque dans le récit de Tacite, Néron finit par tuer Poppée enceinte à coups de pied dans le ventre, un soir de beuverie où il est un peu fâché. Et ensuite, lui-même est renversé en 68 par un coup d'état militaire et finit suicidé par un de ses esclaves dans une villa perdue en dehors de Rome. Donc la punition des méchants, elle est immanente à l'histoire. Et Monteverdi ne se sentait pas forcément obligé de la mettre en scène dans l'opéra lui-même.
Donc ne faisons pas de généralité abusive. Jonathan Little, Le couronnement, c'est à voir, là, maintenant, quand vous voulez. C'est gratuit, peut-être pas avec des enfants, sur le site de l'Opéra de Paris.
Merci. Et avec beaucoup. Un bon son.
J'espère.
Merci.
Signor de non partire, sostien che queste braccia ti circondino il collo, come le tue bellezze circondano il cor mio. Poppea, lascia che io parta, non partir, non partir, signor De. Spunta l'alba e tu che sei l'incarnato mio sole, la mia palpabil luce e l'amoroso dì della mia vita. Vuoi si repente far da me, da me, da me, da me partire?
extrait du couronnement de Poppée qu'on entend au début de ce film, Le couronnement de Jonathan Little. C'était à nouveau Sylvia McNair, Dana Hanshaw, l'orchestre baroque anglais dirigé par John Elliott Gardiner. Demain, notre invité sera Scarlatti, Domenico Scarlatti, ou presque tous ceux qui ont participé à cette année Scarlatti qui se conclut samedi soir à 20h sur France Musique. À la technique, il y avait Théo Gomard, Swad Boukorsa. L'émission a été préparée par Salomé Coq, Marion Guillemet, Margot Muller et Yacine Bouzard.
À réécouter sur francemusique.fr.